Écoutez, Sichot Chalek Ravbet, première sicha sur Parasha Béa. Alors, comme on le sait, notre Parasha, elle parle de la Shemitah, c'est-à-dire la septième année, pendant laquelle en Israël, on n'a pas le droit de travailler la terre. On nous dit que c'est une année de repos pour Dieu, c'est-à-dire une année qui est consacrée à Dieu. On ne doit pas travailler la terre. Et dans le Zohar, on met cette mitzvah de Shemitah, on la met en parallèle avec la septième année d'un esclave hébreu. On sait que l'esclave hébreu, comme on le voit dans la paracha de Mishpatim, il va travailler 6 ans chez son maître, et il est libéré la septième année. Et le Zohar, il nous dit, de la même manière que la terre doit se reposer, les esclaves doivent aussi se reposer. Alors a priori, on a l'impression, quand on lit ce Zohar, qu'il vient nous dire qu'un esclave, il devient libre à partir du moment où la Shemitah, elle arrive. Même si lui, il n'a pas encore accompli ses 6 ans de travail chez son maître, et bien, dès que la Shemitah arrive, lui aussi, il va être libre. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Il y a énormément de sources, énormément de références dans la loi juive qui nous disent que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'esclave, il doit faire ses 6 ans chez son maître, quoi qu'il arrive, et la septième année, il va être libéré. C'est pas la septième année de la Shemitah, c'est sa septième année à lui, à partir du moment où il est devenu esclave. Alors, dans ce cas-là, pourquoi le Zohar nous écrit cette chose-là? Et pour expliquer tout ça, le rabbi va nous apprendre que dans la Torah, il y a des fois où on explique les mitzvot telles qu'elles doivent être accomplies a priori, de la meilleure manière. Mais il y a d'autres manières d'accomplir les mitzvot qui vont quand même être valables a posteriori. Ça veut dire que s'il n'y a pas tous les critères qui sont réunis, tous les paramètres qui sont réunis pour que la mitzvah soit accomplie du mieux possible, elle peut quand même être accomplie. Et elle sera quand même valable. Et là, le rabbi va expliquer plein de cas pour qu'on comprenne un peu l'idée. Alors pour comprendre ça, le rabbi va poser une autre question. On sait que là, on est dans la période du compte du Homer. Et la Torah nous dit, le lendemain de Shabbat, vous allez compter 49 jours. Et c'est assez étonnant, puisque nous, on connaît, et on sait que dans la Torah orale, dans la Mishnah, la Gemara, c'est écrit que ce n'est pas le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Et le premier jour de Pessah, il est appelé Shabbat. Il y a plein de références. Donc en fait, ce n'est pas le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov, le premier Yom Tov de Pessah. Et là, on va compter 49 jours jusqu'à Shavuot. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah elle écrit pas le lendemain de Yom Tov, le lendemain de Pessah? Clairement, la Torah elle va t'écrire le lendemain de Shabbat, et toi tu as besoin d'explications et de références pour comprendre que c'est le lendemain de Pessah. Mais pourquoi la Torah elle va pas clairement et directement au but? D'ailleurs, à cause de ça, il y a plein de sectes qui réfutent complètement la Torah orale, qui se sont basées sur ce verset et qui ont déduit que le compte du Homer commence le lendemain de Shabbat, le lendemain du samedi, donc le dimanche. Et c'est pour ça que le lendemain du dimanche, le lundi, il y a certaines fêtes qui ont été fixées dans les autres religions, puisque toutes ces sectes qui réfutent la Torah orale, elles se sont basées sur ce verset qui, a priori, n'est pas clair. Donc pourquoi la Torah ne dit pas les choses clairement? Alors comme le rabbi l'a dit, il y a des moments où on peut accomplir la mitzvah de la meilleure manière possible, de la manière la plus parfaite, et d'autres moments où ce n'est pas possible. Et dans ces moments-là où ce n'est pas possible, on va quand même accomplir la mitzvah du mieux qu'on peut. Et c'est ça le a priori dans une situation comme ça. C'est quoi l'exemple que le rabbi donne? Il dit par exemple, la mitzvah de Yom Tov, elle est complète quand on va au temple et quand on apporte les sacrifices. Ça, c'est la vraie mitzvah de Yom Tov de la manière la plus parfaite qui existe. Mais quand le temple n'existe pas, le Yom Tov, on le fait quand même. Et toute la sainteté du Yom Tov, elle va quand même agir et avoir une influence. Et on doit la respecter. Alors que le sacrifice de Yom Tov, il fait partie intégrante de la fête. C'est ça qui va contribuer à la joie de la fête. C'est une partie indissociable de la fête de Yom Tov. Et pourtant, nous, puisqu'on n'a pas le temple, on va a priori accomplir la mitzvah de Yom Tov sans le sacrifice. Parce qu'on est dans une situation qui fait que... Et même à l'époque du temple, celui qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas de terrain, lui-même n'avait pas l'obligation de monter au temple, et donc non plus pas d'obligation d'apporter de sacrifice. Pourtant, il devait quand même faire Yom Tov comme il se doit. Donc il y a la mitzvah telle qu'elle peut être faite dans sa perfection la plus parfaite, la plus totale. Et il y a des autres situations où on va, a priori, occulter certains détails de la mitzvah parce que ces situations font qu'on n'a pas le choix. Et le a priori va être ces compromis qu'on va faire, même si la mitzvah elle est quand même considérée comme valable et accomplie. Alors pour revenir au compte du Homer, on sait qu'on va compter 7 fois 7 semaines. Non, pardon, 7 fois 7 jours, donc 7 semaines en tout. Maintenant, on sait que les jours de la création du monde ont commencé avec le dimanche. Une semaine, elle est parfaite quand elle commence du dimanche et elle termine le Shabbat. Et donc, on nous dit, dans plusieurs références dans la Torah, que si le premier jour du Homer va être un dimanche, donc on va commencer à compter le samedi soir, on va avoir 7 semaines parfaites. 7 semaines qui vont aller du dimanche au Shabbat. Et ça va correspondre aux 7 jours de la création du monde. Alors a priori, il y a une question, puisque les 7 semaines sont toujours entières, sont toujours parfaites. On compte jamais moins que 7 semaines. Elles sont toujours entières, elles sont toujours parfaites. Mais quand elles commencent le samedi soir, qu'on a vraiment les jours de la semaine qui défilent dans l'ordre, c'est ça la perfection dont parle la Torah. Et maintenant, on comprend pourquoi la Torah elle nous dit le lendemain de Shabbat. Parce que la manière d'accomplir la mitzvah de la manière la plus parfaite, c'est quand ces 7 semaines vont être du samedi soir au samedi soir. Quand on va commencer par le dimanche et terminer par le Shabbat. Et donc la Torah, elle vient nous dire le lendemain du Shabbat. Quand Pessah tombe le Shabbat, tu commences à compter l'Omer le lendemain du Shabbat. On sait que c'est Yom Tov et on sait que c'est Pessah, mais pour que la mitzvah soit accomplie parfaitement, c'est quand Pessah tombe Shabbat. Donc on va te dire le lendemain du Shabbat. La Torah, elle te dit les choses de la manière la plus parfaite, telles qu'elles doivent être accomplies, même si ce n'est pas possible chaque année. Parce que ce n'est pas chaque année que Pessah tombe Shabbat, et pourtant ça ne nous empêche pas du tout de faire l'Omer sans aucun problème. Mais quand ça tombe Shabbat, il y a une perfection en plus. Le rabbi donne un autre exemple, c'est la fin de ce conte du Homer, elle se termine avec Shavuot. Et on sait que la Torah nous dit Shavuot peut tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Parce qu'on a 49 jours à partir de Pessah, on va compter les 49 jours. Et à l'époque où on pouvait sanctifier la nouvelle lune, on fixait le jour du nouveau mois de Rosh Chodesh en fonction du témoignage si on avait vu la lune ou pas. Donc en fonction du jour où on avait vu la lune, la fête de Shavuot pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Alors que nous, aujourd'hui, les calendriers sont déjà faits, donc ça n'arrive jamais. Mais à l'époque, c'était possible. Et il y a une question, puisqu'on fait toujours un lien entre la fête de Shavuot et le jour où on a reçu la Torah. Et on sait qu'on a reçu la Torah le 6 Sivan. Et pourtant, il y a des années où ça pouvait tomber, à l'époque, ça pouvait tomber le 5. Alors qu'il y a un lien intrinsèque entre Shavuot et le don de la Torah. On dit que c'est le temps du don de notre Torah. On dit aussi que tous les sacrifices de Shavuot, on mentionne jamais le mot faute là-bas. Puisqu'on nous dit, tu as accepté la Torah, je vais effacer toutes tes fautes. Donc la fête de Shavuot et le don de la Torah, le concept du jour du don de la Torah sont intrinsèquement liés. Et quand ça tombe en même temps, c'est la perfection de ce jour, la perfection de cette fête. Pour autant, les années, les cas où c'était possible, où Shavuot pouvait tomber avant, ça n'empêchait pas d'accomplir la mitzvah. Mais ce n'est pas la mitzvah dans sa perfection la plus totale. Ça, c'est quand Shavuot tombe le 6 Sivan, le jour anniversaire du don de la Torah. Donc c'est exactement le même principe. Il y a la mitzvah telle qu'elle est dans sa perfection, et il y a telle qu'on doit l'accomplir dans telle ou telle situation qu'on n'a pas le choix. Un autre exemple encore que le rabbi donne, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. Le jour préposé pour se souvenir de la sortie d'Égypte, c'est le soir de Pessah. C'est là que le souvenir de la sortie d'Égypte, il est le plus parlant, il est le plus important. Mais pour autant, on a un devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, toute l'année. Mais on comprend bien que le souvenir de la sortie d'Égypte qu'on va évoquer tous les jours n'aura pas la même force et le même symbole, le même impact que le souvenir de la sortie d'Égypte qu'on va avoir le premier soir de Pessah. Et donc même si c'est la même mitzvah, on voit qu'à certains moments, elle est accomplie de manière plus ou moins importante, plus ou moins parfaite. Un autre exemple que le rabbi donne, c'est qu'il y a une Mishnah dans laquelle on va donner le nom des préposés à certains rôles, certains services qui étaient accomplis dans le temple. Et tout de suite, on se pose une question, on nous dit, mais en fonction des années, en fonction des générations, les préposés pour tel et tel service, ils ont forcément changé. Les rôles ont été attribués à de nouvelles personnes. La Mishnah, elle est là pour nous donner des lois qui sont invariables. Donc pourquoi la Mishnah, elle vient pour nous citer une liste de noms, une liste de préposés à tel et tel rôle, qui de toute façon va changer. Cette liste, on sait qu'elle ne va pas être éternelle. Pourquoi la Mishnah, elle nous cite cette liste, elle nous cite ces noms-là? Alors que de toute façon, ça va tourner. En vérité, la réponse qu'on nous donne, c'est la suivante. Le nom de chacun de ces préposés, il correspondait parfaitement au rôle qui lui était attribué. On sait que le nom d'une personne, il a un impact très fort sur le caractère et les attributs émotionnels et intellectuels de la personne. Toute la personnalité de quelqu'un, elle est fortement impactée par son prénom. Et ici, pour tous ces rôles qui étaient attribués dans le temple, on avait besoin de telle et telle personne qui ait telle et telle personnalité. Telle et telle qualité, tel et tel tempérament. Et tous les noms qui ont été cités dans la Mishnah correspondent parfaitement et intrinsèquement à chaque rôle qui a été donné. Et donc on nous dit que les prochains préposés qui ont reçu les mêmes rôles, ils ont été appelés du nom de leur prédécesseur. Comme si on avait collé le nom au rôle. En disant, toi maintenant tu as pris ce rôle, et ben on va t'appeler comme ça. Par exemple, on dit Yohanan ben Pinchas, Alors toi maintenant tu vas prendre ce rôle qui va s'occuper des sceaux. Toi aussi on va t'appeler Yohanan ben Pinchas. Et on dit que ceux qui prenaient le rôle de leur prédécesseur devaient avoir un nom ou au moins une qualité qui devait être semblable à son prédécesseur. Donc ici aussi, on voit que c'est pas parfait comme la première fois que ça a été nommé, mais celui qui succède, il ressemble, il se rapproche, et donc c'est quand même valable. Et maintenant, on en vient à la réponse à notre question initiale au tout début. On met en parallèle la septième année qui va être la Shemitah, on va s'arrêter de travailler la terre, et la septième année de l'esclave qui va être libéré. Mais si c'est un juif, alors tout ce qui concerne l'ensemble du peuple juif, ça va le concerner lui aussi. Alors c'est vrai que cette septième année de Shemitah, il y a énormément de détails, énormément de lois, alors que la septième année de l'esclave, il n'y a rien en fait, il est juste libéré. C'est une délivrance aussi, c'est aussi un repos, mais il n'y a pas de détails. Juste on va dire que maintenant c'est fini, il a terminé sa période d'esclavage. Et pourquoi on a défini 7 ans, 6 ans pour un esclave et la septième il va sortir? On s'est basé sur le référentiel global qui est celui du peuple juif, qui va complètement s'arrêter, se reposer, la septième année du travail de la terre. Donc de la même manière, l'esclave, à partir de sa septième année, va être libre. L'un a entraîné l'autre. Et c'est pour ça qu'on les met en parallèle. Et pourquoi le Zohar nous parle de ça, nous dit quand, de la même manière que le sol doit se reposer, les esclaves doivent aussi se reposer, donc doivent sortir, doivent être libérés. C'est pour nous dire que l'esclave qui va être libéré, dont la septième année va arriver en même temps que cette septième année, que la Shemitah, alors, là, il va atteindre une perfection beaucoup plus forte. Quand la septième année de l'esclave va coïncider avec la septième année de la terre, là, on va atteindre cette perfection. Et c'est pour ça que le Zohar nous en parle et met les deux en parallèle. Exactement comme tous les exemples qu'on vient de voir. De la même manière que dans tous ces cas qu'on a vus, on voit que la Torah nous parle de la situation la plus parfaite, même si ça n'arrive pas tout le temps et que ça n'empêche pas la mitzvah d'être pratiquée malgré tout. Ici aussi, le Zohar vient nous dire, la mitzvah la plus parfaite, c'est quand l'esclave il va sortir le jour pendant cette année de Shemitah. Même si ça n'arrive pas tout le temps et que la majorité du temps, ça ne coïncide pas, ça ne va pas empêcher l'esclave de faire ses 6 ans et d'être libéré la 7e année, mais quand ça coïncide, on atteint une perfection. C'est ça la mitzvah initiale de la manière la plus parfaite, comme tous les autres exemples qu'on vient de voir.